RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h09, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi et le dimanche de 9h à midi, toujours avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat et Marc Madio. C'est l'événement dans les grandes gueules du sport. Ce matin, Florian Grill, qui vient d'être réélu président de la Fédération française de rugby, notre invité exceptionnel. Bonjour, président. On va allumer le micro, allez-y.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Pile à l'heure.
Bon bonjour de président.
Pile à l'heure, exactement. Bravo. Il y a le générique et vous venez de vous installer dans le studio. On est ravis de vous accueillir. Félicitations pour votre victoire hier. C'est la première fois que vous faites les grandes gueules du sport. Vous êtes prêt à répondre aux questions des GG?
Prêt à tout, comme un bon second de ligne.
Vous connaissez tout le monde. Sarah Pitkowski, Marc Madio, Christophe Cessieux et Pascal Duprat qui est chez lui, évidemment, dans le sud de la France. Mais il est avec nous aussi pour participer à cette interview. Alors, nous avons beaucoup de choses, président, à vous demander, à évoquer avec vous, le 15 de France, les affaires, évidemment, les finances de la Fédé, le rugby amateur, votre projet. Vous avez été cash durant la campagne. On compte évidemment sur vous pour l'être aussi après. Et donc maintenant, on est d'accord?
On est d'accord.
Alors, problème. Vous venez d'être réélu. Vous étiez opposé à Didier Codorniou. Victoire sans contestation possible avec 67% des voix. Je rappelle que vous étiez le président sortant, que votre premier mandat était très court, 16 mois, car vous avez remplacé au pied levé Bernard Laporte en juin 2023, contraint à la démission suite à des affaires. Est-ce que depuis hier, pour la première fois, vous avez la sensation d'être un président pleinement légitime?
Oui, enfin, j'avais la sensation d'être un président légitime, mais je suis content qu'on ait progressé. On a été élu il y a 15 mois ou 16 mois avec 58% des voix. Là, c'est 67. Donc, c'est toujours bien de progresser dans ces circonstances. Et c'était pas facile. On avait 11 élus sur 40 au comité directeur, 3 ligues régionales sur 13 métropolitaines et 7 d'outre-mer. Et donc, c'est toujours compliqué de gérer en cohabitation dans ce contexte-là. Et en fait, on a réussi à le faire plutôt pas mal. Et donc, je suis content d'avoir maintenant un mandat démocratique clair.
Vous êtes surpris des chiffres? C'est presque un plébiscite, alors qu'on a l'impression que l'image du rugby a été sérieusement écornée cet été. Est-ce que vous vous attendiez à avoir de tels chiffres?
J'espérais faire plus que 58, 67, je veux dire que c'est assez formidable. Donc voilà. Après, est-ce que l'image du rugby a été écornée cet été? La réponse est oui. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt, et donc on a du pain sur la planche et du boulot.
Et on va en parler dans quelques instants. Pascal Duprat, une question justement sur votre victoire.
Oui, avant la campagne, vous aviez, semble-t-il, convenu avec votre adversaire d'un gentleman agreement. On s'invective pas. Et puis, plus la campagne avançait, plus j'ai senti, au travers des prises de position de l'un et de l'autre, que ça fusait quand même pas mal. On vous a senti très ému hier lors de votre discours après votre élection. C'est vain ou c'est vrai?
Non, bah oui, c'est vrai. La campagne a été incroyablement dure, parfois même violente. Bon, voilà, maintenant, pour ma part, moi, j'ai tenu mon engagement. C'est-à-dire que j'ai fait une campagne qui est respectueuse de l'image que je me fais du rugby. Bon, écoutez, passons. Maintenant, parlons du rugby. Il y a des événements formidables qui vont arriver. Là, on a la tournée d'automne avec le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. J'ai envie qu'on parle de rugby.
On va juste écouter juste avant Didier Codorniou, votre adversaire, après sa défaite hier. Il reconnaît évidemment votre victoire.
C'est sans appel, le meilleur a gagné. Et c'est très bien pour le rugby qu'on passe à une autre étape. Voilà, donc moi, demain, ce qui est important, c'est comment le rugby va rebondir. Et je souhaite vraiment toute la chance à cette équipe d'être dans l'action et d'arrêter la communication. Et c'est ce qu'on va regarder donc dans les prochains mois à venir.
Vous lui répondez quoi là-dessus?
Nous, on a fait une réforme statutaire à la Fédé qui prévoit maintenant de la proportionnelle dans le bureau stratégique, ex-bureau fédéral devenu bureau stratégique. Et donc, je lui tends la main pour qu'il vienne bosser avec nous. Et il verra qu'on n'est pas dans la com, on est vraiment dans l'action. On fait des choses très concrètes. On en a déjà fait. On a mis quelques essais en 15 mois. Il faut qu'on les transforme. Et je serais content que Didier vienne travailler avec nous parce que c'est une grande figure du rugby, un grand international. Et au-delà de la campagne, on a besoin d'apaiser le rugby. On n'a pas assez de bénévoles pour se priver de la moitié d'entre eux. Donc, s'il a envie de venir, il est bienvenu.
Donc, vous pourriez travailler avec Codorniou. Avec Bernard Laporte, en revanche, ça semble plus compliqué, non?
J'aurais plus de mal avec Bernard Laporte.
D'ailleurs, hier,
on va demander d'être cash.
D'ailleurs, hier, est-ce que ça signe la fin du laportisme?
Écoutez, c'est pas ça qui m'intéresse. Enfin, voilà, j'ai envie de parler de choses concrètes et positives pour le rugby. Moi, je suis pas là pour régler les affaires, je suis là pour construire l'avenir, et c'est ça qui m'intéresse.
Alors, justement, les choses concrètes dans quelques instants, mais juste rapidement.
Oui, j'ai une question, puisque vous êtes récemment élu président de votre fédération. On a vu ces derniers temps qu'il y avait beaucoup de coups bas, beaucoup d'obscurantisme sur les élections fédérales ou ligues. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on a atteint un bon niveau d'élections et un bon niveau de démocratie dans le fonctionnement des fédérations et des ligues?
Parce que c'est toujours un thème de marche.
Il y a quand même un truc qui me gêne.
Ouais.
Ça fait 40 ans que je suis dans mon sport, j'ai jamais eu un bulletin de vote.
Ouais. Bon, alors, dans
le pourquoi, par exemple, les licenciés n'ont pas le droit de voter? Alors, c'est les présidents de club, c'est ça.
Il y a déjà les présidents de club et toutes les fédérations ne font pas voter leur club. Donc, déjà, il y a une forme de démocratie.
Non, mais pourquoi, les présidents de club, ils sont quand même élus par leurs licenciés.
Ouais.
Donc, c'est quand même.
Oui, ce sont des grands électeurs. On est un peu dans le système à l'américaine. Il y a pas mal d'arriver à l'élection d'un Donald Trump, par exemple.
Il y a pas mal de présidents de club qui demandent l'avis de leur comité directeur pour le choix. Et donc, il y a des votes au sein du comité directeur. Donc, et on est une fédération qui est plutôt en avance là-dessus, puisqu'il n'y a plus de grands électeurs. Avant, il y avait des ligues régionales, il y avait des grands électeurs. Là, c'est vraiment 1950 clubs qui votent au prorata de leur nombre de licenciés. Donc, c'est pas mal en termes de démocratie, et c'est pas mal que ce soit des gens qui sont quand même le nez dans le fonctionnement quotidien du rugby. Voilà. Et franchement, chez nous, ça ne ferait pas lire tous les politiques, hein, il y a 91% des clubs qui ont participé. Donc, le taux de participation, il est énorme.
C'est pas mal.
Il est énorme. Donc, franchement, moi, je pense que c'est assez démocratique quand même.
D'accord. Notre premier thème, la vitrine de la Fédération française de rugby, évidemment le 15 de France, 16 mois de présidence, 16 mois, parfois, même plutôt sur la fin, beaucoup sous pression, sur le terrain et en dehors.
Victoire de l'Afrique du Sud, 28-29, élimination de la France en quart de finale de sa Coupe du Monde. C'est terminé, victoire de l'Irlande, 38-17. Oh, le garde ici, ce ballon qui part. Ah, ça va passer, c'est poteau. Le poteau.
Oh là là,
le poteau, qu'est-ce qu'il fait, le français? Moïfana, il relance. Il va en touche. C'est terminé. Match nul entre l'Italie et la France. Maxime Lucu.
On dégage en touche.
C'est fini.
Ces dernières heures, une vidéo sur les réseaux sociaux a été diffusée avec Melvin Jaminet pour seul protagoniste. L'international français y tient des propos à caractère raciste.
L'arrestation en Argentine de deux joueurs de l'équipe de France de rugby.
Ils sont tous les deux accusés de viol.
Il y a trois semaines, Nelly Dargissi disparaissait sur une plage d'Afrique du Sud. Ce jeune joueur de rugby qui était en stage avec l'équipe de France des moins de 18 ans. Quand une baignade pour récupérer après des efforts intenses a été organisée sur une plage qui était pourtant connue par sa dangerosité.
Alors on l'a entendu, il y a beaucoup de choses à dire évidemment. Le sportif tout d'abord avec cette Coupe du Monde et cet arrêt en quart de finale, un tournoi destination chaotique, les affaires évidemment. Déjà sur le plan sportif, quelle est la priorité du 15 de France pour votre nouveau mandat des 4 ans là?
Alors la priorité, on l'a avec Jean-Marc Lhermey. Moi, je suis pas un président en survêtement. Je suis un président qui délègue, qui s'appuie sur les bonnes personnes. C'est le rôle d'un président de mettre les bonnes personnes au bon endroit. C'est le cas de Jean-Marc. La priorité, je pense que c'est la régénération des joueurs. Il faut être très conscient que quand on a le top 14 avec l'intensité que ça a, la Champions Cup, le tournoi des Six Nations, la Nations Cup demain, la Coupe du Monde de temps en temps, on peut pas avoir un groupe de joueurs réduit qui fait tout ça. Donc l'équipe de France aujourd'hui, c'est 45 joueurs et il faut les gérer avec un planning individualisé. C'est ce sur quoi on a travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby, avec Jean-Marc Lhermey, avec Fabien, de manière à être capable d'affronter tous ces événements en préservant les joueurs. Moi, je suis hyper attentif à la santé des pratiquants. On n'a pas que responsabilité sportive, on a responsabilité d'hommes et de femmes aussi. Et ça, c'est un point qui est vraiment hyper important.
Justement, sur la responsabilité des hommes, les différentes affaires qui ont parsemé toute l'image de l'équipe de France, on s'est souvent interrogé ici sur le silence du sélectionneur qui, selon nous, à un moment ou un autre, que ce soit pour le bilan de la Coupe du Monde, pour la sortie de Melvin Jaminet et ces affaires terribles de ces deux joueurs en Amérique du Sud, son silence est interrogeant. Aujourd'hui, quel est le rôle d'un sélectionneur, à part sélectionner, les mettre sur le terrain et distiller la tactique? Est-ce qu'il a aussi un rôle de guide? Parce qu'on ne l'a pas du tout entendu sur ces sur ces aspects-là.
Oui, non, mais clairement, on s'est réparti les rôles. Moi, j'ai considéré qu'en tant que...
Bah là, ça fait 0%, 100%, là.
Oui, mais bon, bah là, il va prendre la parole parce qu'on rentre dans une phase sportive avec la tournée d'automne. Mais voilà, nous, quand on est arrivé en Argentine, par exemple...
Il aura juste une prise de parole sportive.
Oui, mais bien sûr, mais parce que quand il est arrivé en Argentine, et c'est le rôle d'un président de fédé aussi, d'être en première ligne sur ce genre de sujet qui touche à l'image de la Fédération française de rugby et qui a une dimension qui va au-delà du sportif. Donc quand on est arrivé en Argentine avec Jean-Marc, on a dit clairement à Fabien, écoute, tu t'occupes du sportif, on fait les matchs entre l'Uruguay et l'Argentine, et nous on se prend la marée, parce qu'on s'est quand même pris la marée sur cette histoire, sur ces histoires en Argentine à Mendoza. Je pense qu'on a d'ailleurs fait le boulot, parce que on a réussi à obtenir que les deux joueurs soient pas en prison à Mendoza, ce qui aurait été un risque considérable pour eux. On aurait pu ajouter un drame au drame. Et puis ensuite, on a avancé les fonds pour les défendre. C'était pas notre procès, hein. C'était le procès des deux joueurs. Et après, on a fait confiance à la justice argentine en disant qu'il fallait écouter la plaignante, respecter la présomption d'innocence et puis faire confiance à la justice argentine qui a cheminé depuis. On attend la décision de la justice. Mais c'était notre rôle, à Jean-Marc et à moi, en tant que président et vice-président de la fédération, d'être en première ligne sur ce sujet-là. Et chacun son boulot, j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie que le sportif se concentre sur le sportif.
Alors, sur cette tournée, vous n'étiez pas en Argentine. Jean-Marc Lermet n'était pas non plus. Je crois qu'il était à un conseil de...
Non, on était au congrès de la Fédération française de rugby à Poitiers. Donc, c'est classique. Hein.
Mais qui est le responsable, justement?
Il y a un chef de délégation qui s'appelle Bernard Viviès. Il y a un chef de délégation qui s'appelle Bernard Viviès.
Est-ce que Fabien Gatier, par exemple, a un rôle hiérarchique dans une tournée ou alors il est uniquement centré sur le terrain et que ses joueurs aillent faire la fête le soir? Rentre à 6h du matin avec des gonzesses, est-ce que quelque part il a une responsabilité là-dedans ou c'est pas du tout de son fait?
Non, mais c'est ça qu'on va revoir. C'est-à-dire, on va pas faire le procès du passé. La réalité, c'est que depuis 40 ans dans le rugby, on tolérait, on organisait même parfois ces soirées. Ça concernait à la fois les joueurs et le staff, et peut-être même les dirigeants. Faut pas, là aussi, faut pas raconter d'histoire et arrêter
d'essayer
de mettre.
Oui, mais la plupart du temps, c'est les troisième mi-temps qui se terminaient bien. Il y a eu quelques dérapages.
Il y a aussi des troisième mi-temps qui se sont mal terminés. L'histoire du rugby.
En Écosse, l'affaire Mastaro en Nouvelle-Zélande, un autre joueur qui était mort dans son vomi encore plus longtemps. Évidemment, il y a eu beaucoup de débordements, mais jusque-là, tout était passé. Enfin,
jusque-là, il y avait une espèce de tradition du rugby qui était c'est le fameux, les anglo-saxons, what goes on tour stays on tour, ce qui se passe en tournée reste en tournée, sauf que c'est plus possible. Et sauf que ça marche pas. Et sauf aussi qu'à un moment donné, quand on porte le coq, on a une responsabilité vis-à-vis des 360 000 licenciés, vis-à-vis des 60 000 bénévoles qui expliquent aux parents que mettez vos enfants dans les écoles de rugby, on va leur apprendre le respect, vis-à-vis des partenaires qui se mettent à donner beaucoup d'argent, qui permettent de payer les joueurs et qui associent leur marque à l'équipe de France. Et donc maintenant, il y aura un avant et un après. Et donc, je vais pas sanctionner le passé, ça serait juste ridicule. Par contre, il y a des nouvelles règles qui vont être mises en place. On appelle ça un plan de performance renforcée. Parce que tout le monde comprend bien que l'hygiène de vie, ça fait partie du haut niveau et qu'on ne peut pas espérer faire une quatrième ou une cinquième mi-temps et être champion du monde, gagner le tournoi des Six Nations, etc. Il y a un moment où il faut que les gens comprennent qu'on va faire les choses différemment. Il y aura de la sensibilisation, il y aura de la formation, il y aura des sanctions, il y aura des contrôles, il y aura de la mesure.
Comment vont se faire ces contrôles,
attendez quelques jours, on va
c'est-à-dire
avoir...
C'est-à-dire que vous allez mettre des anciens rugbyman avec un brassard MP et qui sillonneront les boîtes de nuit, les restaurants dans les villes où se déplacera l'équipe de France.
Mais ce qu'on veut savoir, Florian Grill, vous avez fait des états généraux au mois d'août, et ce que veut dire Christophe aussi, et j'imagine que toutes les GG se posent la question, comment vous allez, et est-ce que par exemple il y aura un nombre de verres après un match concrètement, parce qu'on peut dire qu'on peut mettre des choses en place, mais qu'est-ce qu'on met concrètement en place?
Concrètement, ça va sortir dans les jours qui viennent. On a donné la primauté à Fabien, là, qui doit réunir les joueurs et réunir le staff, et qui va poser la question de confiance aux joueurs et au staff, en leur disant, voilà les nouvelles règles, voilà le nouveau cahier des charges, t'en es ou t'en es pas. Et s'il y a des joueurs qui n'ont pas envie de rentrer dans le cadre, ou s'il y a du staff qui n'a pas envie de rentrer dans le cadre, ils ne seront pas bienvenus. C'est tout.
Non, mais ils peuvent rentrer dans le cadre, ils peuvent déborder sur une...
Sauf que le cadre va prévoir des contrôles
et des sanctions.
D'accord. Et ça sera extrêmement précis. Et je vais vous dire, on n'aura pas la main qui tremble. C'est-à-dire que moi, c'est plus acceptable. On ne peut pas vouloir développer le rugby comme on a envie de le développer, expliquer le rôle éducatif et sociétal que celui du rugby et pour lequel les 60 000 bénévoles du rugby se battent dans les clubs, et accepter des débordements de ce type. Ce n'est pas possible. Et puis à un moment, on a envie d'être champion du monde, on a envie de performer à haut niveau, et je suis désolé, on peut pas faire de la nutrition, de l'hydratation personnalisée par joueur, utiliser la data, en veux-tu, en voilà, être au top de la perfection du fonctionnement et se mettre sur le toit avec une quatrième ou cinquième mi-temps. C'est pas envisageable.
On va pas parler que de l'alcool aussi. Il y a aussi ces problèmes de drogue qui sont apparus. Notamment, je disais qu'au Stade français, ils ont fait leur premier contrôle inopiné, là, en début de semaine. Est-ce que ça aussi, ça va être dans le cadre d'un suivi pour les joueurs de l'équipe de France aussi, ou ça n'est que de l'ordre du club, ce type de contrôle?
Non, mais d'abord, les problèmes de cocaïne, parce qu'il faut mettre des mots sur les mots. Les problèmes de cocaïne, le rugby n'est pas hermétique à la société. C'est un problème endémique dans la société et ça existe bien sûr dans le rugby. Et moi, j'ai pas attendu ce qui s'est passé en Argentine pour en parler. Dès que j'ai été élu à la Fédé, j'ai beaucoup parlé avec Proval, j'ai beaucoup parlé avec le rugby amateur que je connaissais depuis longtemps. Et en fait, on a dès février lancé une commission, un groupe de travail avec la Fédération française de rugby, la Ligue nationale de rugby, Proval, qui est le syndicat des joueurs amateurs, des joueurs pros, le rugby amateur, sur la question des addictions, alcool et cocaïne. En juin, je faisais un édito dans Rugby Mag, le magazine de la Fédé, dans lequel je dis, est-ce que ça existe dans le rugby ? Oui, y compris le racisme, les violences sexuelles, les violences physiques, tout ça existe dans le rugby. Est-ce qu'il faut faire front ? La réponse est oui. Est-ce que c'est que le rugby ? La réponse est non. C'est la société. Maintenant, il faut qu'on se batte là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir faire des contrôles ? C'est clair que les clubs pros qui ont des CSE, des comités d'entreprise qui le valident, peuvent le faire. On est en train de valider juridiquement que la Fédé, qui n'est pas l'employeur, peut le faire aussi. Si on peut le faire, on le fera.
Donc, avant une tournée, il est possible qu'il y ait
des contrôles.
Il y ait des contrôles sur tous les joueurs.
Si on peut, dans un cadre de droit du travail, le faire pour la Fédération française de rugby, sachant qu'on n'est pas l'employeur, la réponse est oui, et même un grand oui. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. Et j'ai envie de dire, c'est la grandeur du rugby et la grandeur de la Fédération. On est un sport qui, quand même, accepte les règles, de fixer des règles, de fixer des cadres stricts. Moi, je ne suis pas contre la troisième mi-temps. Il n'y a pas de problème. Mais pas la quatrième, pas la cinquième, et pas les addictions, et pas quand ça devient. Quand on rentre dans le domaine de l'addiction.
Il n'y aura pas d'interdiction d'alcool quand on est en tournée avec l'équipe de France.
Il pourra y avoir en fin de tournée.
La veille d'un match, ouais.
En cas de victoire, il pourra y avoir une troisième mi-temps raisonnable.
Mais il est possible que vous interdisiez l'alcool
à l'intérieur d'une boîte réservée avec une table de ping-pong.
Il est tout à fait possible qu'on interdise l'alcool avant.
Ok, il est possible que vous interdisiez
tout
l'alcool.
Mais ça, vous l'aurez dans le cadre de ce que j'appelle le plan de performance renforcé du rugby français, où la gestion des addictions fait partie de la performance.
Président, dans les multiples affaires de l'été, vous avez été exemplaire concernant Melvin Geminé, qui a été sévèrement puni, qui ne pourra pas rejouer avant le milieu de l'hiver. En revanche, pour l'affaire Jégou Radou, qui sont pour l'instant toujours mises en examen, et on attend leur blanchiment dans quelques semaines, mais bon, c'est pas encore tout à fait fait. Et s'ils sont innocentés par la justice, est-ce que la Fédé passera l'éponge? Est-ce qu'ils pourront recommencer à porter le maillot bleu, je sais pas, pendant le tournoi qui arrive, par exemple?
Alors, je veux préciser les choses. Melvin Geminé, il n'a pas été sanctionné pour la quatrième ou la cinquième mi-temps. Il a été sanctionné pour des propos racistes qui sont inacceptables. D'accord. Et c'est pas
mais
moi.
Mais qui était en troisième mi-temps,
c'était. Oui, mais d'accord. Mais c'est le contexte. Ça a été la quatrième mi-temps ou la cinquième mi-temps, mais c'est des propos racistes inacceptables. Il a été sanctionné pas par moi, il a été sanctionné par la commission de discipline indépendante de la fédération qui a décidé de 34 semaines. Moi, j'ai pas d'avis à porter sur la sanction. Et nous, on a fait un signalement en plus au procureur, ce qui est normal. C'est l'article 40 qui oblige les fonctionnaires ou les délégataires de services publics, ce qui est le cas de la Fédération française de rugby, quand il y a des propos délictueux, de faire un signalement. Donc, dont acte. J'apprécie le fait que Melvin Geminé ait accepté la sanction, ce qui est le cas aussi du RCT, son club, et qu'il l'exécute et qu'il ait la possibilité de la réduire en faisant des travaux d'intérêt généraux. S'agissant de Oradou et Jégou,
mais est-ce qu'il pourra rejouer en bleu ? C'est aussi la question, Melvin Geminé.
Écoutez, moi, on m'a posé la question, j'ai dit ça sera très compliqué. Parce que vis-à-vis des partenaires de l'équipe de France qui ont associé leur marque à l'image du rugby, ils portaient quand même le coq quand il a tenu ses propos. Vis-à-vis des partenaires et vis-à-vis des bénévoles, on a quand même, sur les 2000 clubs de rugby français, on a quand même 271 qui travaillent dans les quartiers prioritaires de la ville.
Mais vous ne dites pas non, c'est ce que je veux dire.
Je dis ça sera très compliqué.
Okay.
Je dis ça sera très compliqué.
Mais là, c'est pas mon seul avis. C'est double peine.
Peut-être. Mais je pense qu'à un moment, il faut que les gens comprennent. Quand on porte la France, je suis désolé, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà. Et donc, peut-être que c'est la double peine. Je suis pas le seul à le décider. Donc, c'est des choses qu'on verra avec le bureau stratégique, et qu'on verra aussi avec Fabien. Mais franchement, de mon point de vue, ça sera très compliqué. Si c'est, vous me demandez mon avis à moi,
vous diriez non.
D'accord. Okay. Okay. Et voilà. Pour
Jégou et Roidou, nous, on a été très clair. C'est-à-dire que, pareil, ils n'ont pas été sanctionnés pour la quatrième ou la, puisqu'ils n'étaient pas les seuls pour la quatrième.
Et la sixième mi-temps, plutôt.
Oui, la sixième mi-temps. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas les seuls, puisque depuis. Les langues se sont déliées. Donc, et puis, par ailleurs, on a vu les caméras de vidéo de l'hôtel. Donc, on sait bien qu'il y a beaucoup de monde qui est sorti. Donc, voilà, on va pas là aussi mettre la poussière sous le tapis et faire comme si ça n'avait pas existé. Pour l'instant, on a attendu que la justice fasse son cheminement. La justice, elle a dit quoi ? Elle les a d'abord libérés en Argentine, ensuite elle les a libérés en France. Maintenant, on attend possiblement un non-lieu. Nous, on a été très clair, ils ne rejoueront pas en équipe de France tant qu'il n'y a pas de non-lieu. Et pour qu'ils rejouent en équipe de France, il faudra aussi qu'ils aient les performances sportives adéquates.
Vous avez compris la décision finalement la section paloise d'autoriser Hugo Radu à reprendre le terrain.
Moi, je suis pas le président de la section paloise.
Non, juste en tant que président,
Écoutez, les clubs font ce qu'ils veulent. Les clubs font ce qu'ils veulent. Moi, je suis effectivement un passionné de rugby. Les clubs font ce qu'ils veulent, mais nous, en ce qui concerne la Fédération française de rugby, ne rejoueront pas en équipe de France tant qu'il n'y a pas de non-lieu.
Ok. Et eux, avec un non-lieu, pourraient.
Potentiellement, ils pourraient rejouer s'il y a un non-lieu et si, excusez-moi, parce que c'est pas juste le non-lieu qui va le décider, s'ils montrent sur le terrain des performances sportives et qui le justifient.
Et à l'avenir, est-ce que deux joueurs de l'équipe de France pourront ramener des jeunes filles dans l'hôtel des Bleus ?
Vraisemblablement, ça sera dans le cadre du plan de performance renforcée, mais je peux vous dire en scoop. Vous dire en scoop que vraisemblablement, non.
Avant de passer à un autre dossier et de revenir sur malheureusement le drame Nargissi, tout de même sur Fabien Galthié, parce que moi je vais vous le dire très honnêtement, président, ça fait des années que j'anime des émissions et on n'imagine pas Didier Deschamps ou un autre sélectionneur d'une équipe de France de foot rester muet pendant 3 mois après ce genre d'affaires. La dernière déclaration qu'il a faite et la dernière interview, c'était dans le Middle en juillet, où il dit malgré tout l'équipe de France n'est pas tombée. Je trouve ça hallucinant. Vraiment, hein, je vous le dis, comme je le pense, hallucinant que Fabien Galthié, sélectionneur de l'équipe de France, n'ait jamais vraiment parlé de ses affaires. Et je me demande comment c'est possible que vous puissiez vous dire « moi je parle de ça, moi je parle de ça ». Comment le sélectionneur qui est responsable de son équipe à ce moment-là ne soit pas intervenu ?
Considérez que c'est ma faute, puisque c'est moi qui ai demandé qu'on le fasse comme ça. C'est-à-dire que j'ai dit à Fabien « tu es chacun son couloir de nage ». Et on a dit pareil avec Jean-Marc, on s'occupe nous de l'extra-sportif, toi tu te concentres sur le sportif, par respect pour l'Uruguay et l'Argentine qui nous reçoivent, on se doit de faire des bons matchs contre l'Uruguay.
En septembre.
Après, je lui ai dit, nous on s'occupe de ce sujet-là. Moi je pense pas mal de se répartir les rôles, et puis c'est aussi le rôle d'un président de fédé d'assumer ces sujets-là. Donc on les a assumés et on essaie de les assumer avec dignité. Et avec transparence. Et Fabien va avoir l'occasion de s'exprimer avant le...
Oui, parce que là, il va y avoir les questions. Les conférences de presse vont permettre aux journalistes de revenir sur des affaires qui ont lieu il y a 2 ou 3 mois. Là, on va l'entendre.
Vraiment aux questions. Fabien, il a toujours une manière de
comprendre. Oui, mais là, lui seront posés directement.
Non, mais juste là-dessus, et c'est l'impression que ça donne, en fait. Alors, c'est peut-être votre stratégie et vous l'adoptez comme vous voulez, vous êtes le président. Mais l'impression que ça donne, c'est qu'en fait, il est un peu... qu'il est sorti aussi, donc il peut pas trop s'exprimer. Vous voyez l'impression que ça donne, c'est que lui aussi
avec les joueurs. Fabien a complètement intégré cette logique du plan de performance renforcée dont on lui a parlé avec Jean-Marc.
Il a été co-construit avec lui.
Mais complètement co-construit avec lui, avec l'ensemble. Il a fait partie des états généraux. Il était ainsi que Jérôme Daré, ainsi que d'autres membres du staff des équipes de France. Il y a 14 équipes de France. Et il a été travaillé par la commission haute performance qui maintenant joue un rôle central vis-à-vis des 14 équipes de France, qui est animée par Jean-Marc Lhermé et Olivier Lièvremont, notre directeur technique national. Et ils sont complètement partie prenante du plan de performance renforcée. Et Fabien l'a complètement intégré et va poser la question de confiance à l'ensemble des membres du staff et les joueurs. La question de confiance, t'en es ou t'en es pas. Les nouvelles règles sont celles-là. Et je pense que Fabien, il a compris que c'était un enjeu de performance.
Et on se retrouve dans quelques instants avec donc notre invité, le président de la Fédération française de rugby qui vient d'être réélu et qui est avec nous 1 heure dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, avec Pascal Duprat, avec Marc Madiot et avec Sarah Pitkowski. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Toujours avec Marc Maggio, Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski et notre invité, le président de la Fédération française de rugby, qui a été réélu haut la main hier, Monsieur Florian Grill. On a parlé du 15 de France, évidemment, on pourra y revenir dans quelques instants. Parlons aussi de ce drame qui est survenu le 7 août dernier, le drame Mehdi Narjissi, disparu en mer au large de l'Afrique du Sud. Écoutons d'abord son papa, Jalil, et l'avocat de la famille. C'était sur BFM fin août.
Quoi qu'il se passe, on veut que les choses soient faites correctement pour lui, pour sa mémoire, et que ça n'arrive plus jamais. Plus jamais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre fils qui a disparu, mais il y en avait d'autres qui étaient en danger. Et c'est nous, aujourd'hui, qui sommes dans la détresse, dans l'horreur de ne plus avoir notre fils. Maintenant, ça ne nous ramènera pas Mehdi, mais pour sa mémoire, pour le garçon qu'il est, tout simplement.
Sur cette plage, j'ose le dire, c'était la pagaille organisée. C'est-à-dire que, malgré la vue des panneaux, malgré les renseignements qu'ils auraient pu obtenir, puisque ce n'est pas la première fois que les U18 se déplacent en Afrique du Sud, chacun savait que Dias Beach n'était pas un endroit pour les enfants. Comment on a pu laisser entrer des gosses là-dedans ? C'était la décision la plus irresponsable qui soit.
Et on parlera des responsabilités, d'ailleurs, dans quelques instants. Juste avant, qu'avez-vous envie de dire aujourd'hui à la famille, vous qui venez d'être réélu pour 4 ans, qui allez mener le rugby français pendant 4 ans, qu'avez-vous envie de dire à Jalil, son papa, et à sa famille ?
Bah, c'était mes premiers mots à l'élection. Moi, ils m'ont accompagné. Il n'y a pas un jour où je pense pas à Jalil, à Mehdi, à Valérie, à la sœur de Mehdi. Et voilà, il n'y a pas un jour où j'y pense pas. C'est quand j'ai appris l'information par Olivier Lièvremont, le DTN, je lui ai dit, il n'y a qu'une seule personne qui doit appeler la famille, c'est moi. Donc c'est moi qui les ai prévenus. Et je me suis écroulé, pour le dire avec toute la vérité et tout le cœur qu'il faut. Je me suis écroulé comme père de famille, avant de me dire, t'as une responsabilité de président de fédération, démissionner et se réfuir. T'as une responsabilité qui est de faire toute la vérité sur cette affaire. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait un rapport d'enquête qui est très dur pour le staff, qui est dur pour la Fédération française de rugby, donc indirectement pour son président qui a une responsabilité morale.
Justement, quelle est votre responsabilité là-dedans ? Quelle est votre responsabilité ? Parce que vous êtes en haut de la pyramide.
Mais ça fait partie des sujets qu'on interroge, parce qu'en fait, ce qui est compliqué dans une organisation comme celle-là, c'est qu'il y a à la fois un staff qui est composé de cadres d'État, qui est composé de salariés de la Fédération française de rugby, donc cadres d'État rattachés au ministère, de salariés de la Fédération française de rugby, de bénévoles et de prestataires. Et donc, en fait, au-delà du drame pour lequel on peut pas avoir de mots et pour lequel il faut accepter et absorber et la douleur et la colère de la famille, et c'est extrêmement compliqué de trouver le bon ton, le bon registre, etc. Mais au-delà de ça, ça questionne le mode de fonctionnement qui existe depuis 40 ans dans les fédérations. Et je dois en parler avec le ministre, j'en ai parlé avec la précédente ministre des Sports. Nous, on a sur les cadres d'État, par exemple, une autorité fonctionnelle, mais on n'a pas une autorité hiérarchique. Et donc, ce sujet-là, il est à revoir. Parce que moi, je suis très fier de ma DTN. Je pense qu'il y a vraiment, on a de quoi être dominant dans le rugby français sur les 10 prochaines années, masculin et féminin. Franchement, si on s'organise bien, si on traite les questions d'hygiène de vie, etc., on a vraiment de quoi progresser. Mais ce fonctionnement un peu hybride, il est pas clair. Et il y a besoin de clarifier la chaîne hiérarchique. Ça fait partie des enseignements de ce drame pour lequel voilà, il n'y a pas de mots.
En l'occurrence, le manager de la tournée et le préparateur physique étaient membres de la Fédé ou
non,
membres
c'est deux membres cadres de d'État rattachés au ministère. Et donc il y a voilà.
Le fait que l'histoire a été requalifiée il y a quelques jours en homicide involontaire par le tribunal d'Agen. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Est-ce que c'est vous aujourd'hui qui êtes en première ligne en tant que responsable de la Fédération française ? Ou alors
Moi j'ai été auditionné comme témoin.
Ouais.
Voilà, mais je suis pas surpris au regard de ce que je sais, au regard de notre rapport d'enquête, je suis pas surpris de la requalification. Voilà, c'est malheureusement, il y a une série d'erreurs de jugement, de fautes, le cas échéant, qui ont justifié d'ailleurs que nous, dans notre rapport d'enquête, on on invoque la rupture de confiance et qu'on demande au ministère pour les cadres, les deux cadres qui dépendent de lui, de prendre ses dispositions, puisque c'est pas nous qui avons l'autorité hiérarchique sur les deux cadres d'État rattachés au ministère ou au DRAGES. En ce qui les concerne.
Depuis, les conseillers techniques sportifs, d'ailleurs, de cette équipe des U18 ont été suspendus à titre conservatoire et le manager Stéphane Campos a quant à lui déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse et son avocat qui estime que la FFR a tenté de clouer au pilori, ce sont ses termes, pour lui faire porter le chapeau, pour lui faire porter la responsabilité de la disparition de Mehdi.
Ouais. Écoutez, j'ai pas envie de commenter parce qu'il y a une affaire de justice qui est en cours et c'est à la justice de décider de la responsabilité individuelle et ou collective sur place. Bon, voilà, la réalité, c'est qu'il n'y a pas que les deux cadres d'État. Hein. Il y a tout le staff. Nous, on a suspendu la totalité du staff de toute mission de management. Ça concerne aussi les salariés de la FFR. Pour les gens qui relèvent de la FFR, bah, il y a un dossier RH qui est en cours pour cela. On a arrêté de travailler avec les bénévoles et on a bien sûr suspendu les missions des prestataires aussi. Voilà. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a quatre types de profils dans cette affaire et qu'il y a une complexité. Je l'ai dit au ministère et je l'ai dit à l'enquête de l'inspection générale qui est en cours. J'aurais souhaité, dans un dossier comme ça, qu'il y ait un peu plus de travail en commun entre le ministère et la Fédération française de rugby, et peut-être qu'on mène une enquête conjointe, parce que pour moi, il y a des choses à revoir dans l'organisation, et bon, on ne tirera jamais rien de bien de ce drame, mais si au moins on peut avoir pour conséquence, ça peut avoir pour conséquence qu'on repense un peu le modèle d'organisation, la chaîne hiérarchique et la chaîne de délégation. Il faut que ça soit repensé. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des managers, et plutôt, c'est pas un élu, parce qu'un élu, il n'a pas la compétence divine qui lui tombe sur la tête le jour où il est élu. Qu'il y ait des managers qui soient compétents sur les différents sujets, qui accompagnent les différentes équipes de France dans les déplacements. Malheureusement, c'était le cas avec ces deux managers. Ça n'a pas empêché le dérapage, mais en tout cas, il faut qu'il y ait des managers compétents et que la délégation leur soit donnée pleine et entière et que la délégation puisse aller jusqu'au pénal.
Dans cette affaire, vous avez été également victime d'attaques, notamment de la part du père de Mehdi, Jalil Narjissi, père éploré, qui vous a reproché de ne pas avoir eu envie de l'accompagner en Afrique du Sud sur les lieux du drame. Je sais que vous êtes déjà expliqué là-dessus. Vous disiez que vous ne sentiez pas le bienvenu, c'était ouais. peut-être pas votre place d'être là. Je sais que vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir été là.
Je m'en suis excusé. C'est moi qui annonce le drame de la disparition de leur fils à Jalil et à sa famille. Et ensuite, j'ai la possibilité, je me dis, bon, allez, hop, je me prends l'avion pour aller en Afrique du Sud. Mais on avait 30 mineurs à rapatrier, plus le lien avec le consulat, l'ambassade, le service de recherche, etc. Et je me suis dit, ne monte pas dans l'avion, tu ne peux pas être dans l'avion pendant 12 heures, alors qu'il y a la cellule de crise H24 à organiser. Ensuite, j'échange par WhatsApp avec Jalil, on a quand même envoyé un DTN adjoint depuis Paris, qui a fait le vol avec eux, avec un ami de la famille aussi, etc., qu'on avait tout organisé. Ensuite, j'échange avec Jalil, je lui propose, par le biais de Jean-Marc Bédéred, qui est le DTN adjoint qui l'a accompagné, de faire une visio, de lui parler, il refuse. Et je me dis, tu es le diable qui a annoncé la disparition de son fils, ta présence n'est pas opportune. Et alors que j'ai été accueillir le staff et les joueurs à leur arrivée à l'aéroport, je ne l'ai pas fait pour Jalil, mais consciemment, parce que je croyais qu'il ne voulait absolument pas me voir et que ma présence allait être jugée insupportable à ses yeux parce que j'incarnais la Fédération française de rugby qui a fait disparaître son fils. Voilà, je m'en suis expliqué avec lui. Je l'ai vu, je sais pas, médiatisé le fait qu'on s'est vu. Voilà, je m'en excuse. Voilà, y a rien à dire face à la douleur et à la colère d'une famille. Et c'est très compliqué de trouver les bons mots. Et j'en suis vraiment désolé.
11h44, on revient dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport avec le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill. Encore beaucoup de questions, je le sais, de Marc, de Pascal et de Sarah sur le sportif, sur les finances, sur le club et sur les clubs amateurs. On revient dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport avec Florian Grill, notre invité exceptionnel, et avec les GG, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux et Marc Madiot. On poursuit l'interview avec le président réélu hier largement. Son opposant, c'était Didier Codorniou. Pascal, tu voulais revenir sur le sportif de l'équipe de France.
Oui, oui, président, si vous le permettez. Il y a une Coupe du Monde qui se déroulera en Australie en 2027. Alors c'est demain ou après-demain. D'ici là, seront disputés 3 tournois des 6 nations. Allez-vous fixer des objectifs clairs à Fabien Galthié?
Ouais, j'ai pas besoin de fixer des objectifs à Fabien. Enfin, je trouve que c'est un peu désuet, ce système d'un président qui dit il faut ci, il faut ça.
Le foot le fait, hein.
Oui, bon, écoutez, moi, il est suffisamment grand pour se fixer des objectifs lui-même, et connaissant Fabien, il a plutôt envie de tout gagner, hein. Voilà.
Donc, il y aura pas de...
Non, bah non, je trouve ça d'un autre âge.
Voilà. Ok. Vous
connaissez beaucoup de sportifs qui ont envie de perdre?
Non, mais il y a quand même des présidents.
Cela dit, je
voulais rebondir.
Il y a des sélectionneurs, Pascal, qui s'accrochent à leur poste.
Pascal, t'as un peu bouffé ma question, mais je pensais quand même que quand on était président de fédération, on se devait de fixer des objectifs à son sélectionneur pour le mettre en compétition. Imaginons, vous avez mis en place un sélectionneur, il n'a pas de résultat, ça se passe mal. Il est mauvais dans le tournoi, il est mauvais avec la sélection, vous le maintenez quand même en poste?
Mais ça sera pas le cas, mais nous on a envie de tout gagner. Voilà.
Si oui, mais ça c'est des mots.
Non, c'est pas des mots, mais nous on a, moi vous savez, moi je suis dans le civil, je suis un patron de PME, un entrepreneur, un manager, moi je crois au temps long. Je crois pas au système où sur le résultat d'un match, sur le résultat d'un tournoi, etc., on exécute les gens. On a un contrat avec Fabien qui va jusqu'à la Coupe du Monde en Australie. Il ira jusqu'à la Coupe du Monde en Australie.
Quoi qu'il arrive.
Oui, bien sûr. Et on assumera les échecs comme les succès. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de succès. Voilà. On n'est pas dans le jeu. D'abord, en plus, c'est pas le rôle d'un président de fédé. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je le conçois. Moi, je suis pas en survêtement. J'ai pas vocation à créer des interférences en allant discuter avec les joueurs, avec ci, avec ça, à faire des. Moi, j'essaie que les choses soient limpides et claires. J'ai un vice-président en charge du haut niveau et des officiels de match qui s'appelle Jean-Marc Lhermet. Je passe par Jean-Marc Lhermet. Jean-Marc Lhermet, il travaille avec Fabien Galthié. Je vois Fabien, je vois Jérôme Daré, je vois etc. Mais je les vois de manière très amicale. Moi, je suis au courant de tout parce qu'il y a un bureau stratégique qui se réunit tous les mercredis matins de 8h à 10h et où tout le monde parle de tout. On peut parler des arbitres, on peut parler des finances de la Fédé, on peut parler du haut niveau, on peut parler du rugby amateur, etc. On doit partager l'information au sein du bureau stratégique, mais ensuite, je m'appuie sur des gens à qui je délègue. Jean-Marc Lhermet, je lui délègue. Fabien Galthié, il a la responsabilité de l'équipe de France comme sélectionneur. Et je pense qu'il a toutes les compétences pour arriver au bout et pour nous apporter un titre de champion du monde dont on a tellement envie, et j'ai envie de dire même besoin.
Ok, donc alors, pas d'objectif, mais si ça surprend évidemment le manager de la groupe AMA-FDJ, Marc.
Non, mais c'est plus par rapport à ce qu'on voit dans les autres fédérations. Je fais une comparaison, notamment avec le foot, entre autres.
Ok, Pascal Duprat.
Oui, bah alors excusez-moi, j'ai aussi une nouvelle question aussi désuète que la première, mais j'en appelle à l'amoureux de rugby que vous êtes. Est-ce qu'Antoine Dupont doit-il redevenir le capitaine du 15 de France?
C'est à l'amateur
de rugby, mais c'est aux passionnés de rugby, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donnez-moi votre avis.
Non, mais ça relève pas de moi. Moi, je suis un président qui délègue cette décision-là. Je suis pas au cœur de l'équipe tous les jours pour
être... Vous répondez avec la casquette de président.
Mais c'est vrai, c'est pas à moi. Mais c'est pas à moi d'en décider. Il faut vivre avec l'équipe pour prendre ce genre de décision.
Est-ce que
je suis président, je serais mieux placé que Jean-Marc ou surtout que Fabien ou le staff qui l'entoure pour décider de qui doit porter la présidence. Antoine, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un ovni. Voilà, il a porté énormément au rugby français. Il faut le remercier pour ça, ce qu'il a fait, la manière, l'humilité avec laquelle il a su rentrer dans l'équipe de France à 7 avec ce titre de champion olympique, la qualité aussi de Jérôme Daré qui a su l'intégrer, qui a fait une masterclass de management sans que l'équipe, qui avait quand même des performances hors Antoine, de se délite. C'est formidable, mais c'est pas un président de fédé. En tout cas, moi, c'est pas ma conception de la présidence de dire qui doit être capitaine, qui doit être sélectionné, qui doit être... C'est comme ça qu'on casse, en fait. C'est comme ça qu'on... Moi, je crois à la délégation, je crois à l'intelligence collective, je crois à un mode de fonctionnement où on respecte les champs et les prérogatives de chacun. Moi, je ne suis pas super compétent sur le haut niveau du rugby, je ne veux pas décider de ce genre de sujet.
Nous non plus, ça ne nous empêche pas d'en faire des débats,
qu'on en parle, tant mieux. Moi, je trouve ça formidable parce qu'on parle du rugby, mais ce n'est pas moi qui vais vous dire.
Florian, vous en êtes où, justement, de votre rapport avec le sélectionneur. Au début de votre mandat, on savait qu'il était plus proche de Bernard Laporte, qu'il avait mis en place et avec lequel il entretient des rapports. Il a été le capitaine du sélectionneur Laporte. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'il fait partie de votre équipe? C'est important quand même qu'un président de Fédé et un sélectionneur soient sur la même longueur d'onde. On a vu par exemple qu'entre Noves et Laporte, ça n'avait pas fonctionné et qu'il avait vite dégagé. Quels sont vos rapports avec lui et est-ce que vous avez totale confiance en lui?
J'ai totale confiance en lui. Quels sont mes rapports avec lui? Ils sont bons, même s'il passe beaucoup par l'intermédiaire de Jean-Marc Lhermé dans le cadre de la délégation que je vous décrivais. Est-ce qu'il fait partie de l'équipe? La réponse est oui. J'aurais eu un problème s'il m'avait dit non, le plan de performance renforcé, j'y crois pas. Mais c'est pas du tout. C'est pas du tout le cas. Il va complètement le porter. Et je pense qu'il a compris l'enjeu en termes de performance qu'il y avait derrière ce plan. Et donc, il fait complètement partie de l'équipe. Et on a envie, avec Fabien, d'être champion du monde en 2027.
Et il a compris qu'il pourrait plus aller boire trop de coups le soir après les
matchs.
Oui,
c'était alors. Pas trop le style de Fabien, mais voilà.
Oui, parce que vous aviez parlé de membres du staff qui étaient sortis.
Oui, bah, non, mais vous voulez que je vous donne des noms?
Vous allez
pas y arriver. Vous avez un second ligne de 117 kilos en face de vous, méfiez-vous. Il en faut beaucoup pour me convaincre.
Mais on sait qu'il y en a eu, et évidemment, vous voulez que les choses changent, on a bien compris. Voilà. Sarah Pitkowski et Marc Madieu aussi, d'autres questions pour vous, président?
Alors moi, je vais vous parler du rugby en général. C'est vrai que c'est un sport aujourd'hui autre les dérives qu'il y a eu, mais il y a ces fameuses commotions cérébrales. En tout cas, la santé des joueurs et des jeunes joueurs est quelque chose qui revient de manière récurrente. Il n'y a pas que le rugby à 15, hein, puisqu'on a vu, on a été champion olympique du rugby à 7, mais il peut y avoir aussi le flag, il peut y avoir d'autres types de pratiques. Est-ce que ça fait partie de la politique, votre politique, pour essayer de garder toujours l'intérêt du rugby pour les plus jeunes, pour les filles, et donc d'ouvrir à d'autres pratiques pour que rester une fédération forte, en fait?
Ouais. Alors d'abord un mot sur la sécurité des pratiquants. Nous on se bat à World Rugby avec Abdelatif Benazi qui est mon bras droit pour la partie internationale.
Que vous souhaitez présenter à World Rugby.
La Fédé soutient la candidature d'Abdel à World Rugby et on a un vrai gros sujet sur la santé des pratiquants puisque d'abord on est à vent debout contre le carton rouge 20 minutes et quand je dis vent debout c'est la Fédé, la Ligue, Proval et même
là, vous êtes tous alignés là.
Tous alignés même Tech 15 en disant mais c'est n'importe quoi, c'est ça serait une grosse erreur, ça va peut-être s'imposer à nous parce que il y a un principe de vote.
Même la variante avec le.
Non, mais tout. Mais enfin, c'est un non-sens. Au moment où on parle de sécurité des pratiquants, on peut dire que quelqu'un peut défoncer quelqu'un sur un terrain et prendre 20 minutes. Ça peut même.
Oui, mais ce qu'on vous rétorque, c'est le carton rouge, on le garde, mais il y a aussi un carton rouge de 20 minutes qui existe.
Non, mais bon, écoutez, ça ne tient pas la route. Voilà. On ne veut pas entendre parler de ce carton rouge 20 minutes. Maintenant, il s'imposera peut-être à nous. Il va être testé là, pendant la tournée d'automne, dont acte. Mais nous, on est contre. On plaide aussi pour l'abaissement de la ligne de plaquage, parce qu'on commence à avoir des statistiques qui démontrent qu'il y a une corrélation directe entre la hauteur du plaquage et la commotion cérébrale. Donc, nous, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on sait ça, il faut changer. Voilà, donc c'est ce qu'on pousse aussi à World Rugby. Après, oui, on développe beaucoup de pratiques. On a, alors c'est le rugby à 5, qui est un rugby sans choc, sans plaquage, oui. Basé sur la passe et l'évitement, qui est génial pour développer le rugby dans le monde scolaire, parce qu'on peut jouer dans un gymnase ou dans une cour d'école. En mixité, on a 35 000 écoles primaires en France, on a mis 35 000 ballons en mousse avec un petit QR code pour que les professeurs des écoles puissent faire du rugby à 5, qui est un sport collectif, mixte, top. On a le rugby à 7, qui est un deuxième moteur pour le rugby français, champion du monde. On fait 530 000 personnes en 6 jours au Stade de France. Enfin, Thomas Bach, le président du CIO, il était, on dit chez moi, espanté. Il était impressionné de voir ces résultats-là. Il y avait quelques milliers de personnes à Rio, à Tokyo, avec la Covid, il n'y avait personne. Et puis, on a notre joyau, qui est le rugby à 15. Et il faut qu'on montre la diversité de ces rugby-là, qui est extrêmement attractive et qui doit nous permettre de remonter le nombre de licenciés. Parce que on est le deuxième sport en France dans les médias, on n'est que le dixième en nombre de licenciés, donc ça, il faut qu'on le remonte.
Il n'y a pas eu une hausse, justement, du nombre de licenciés après le formidable succès du rugby à 7.
Il y a eu une hausse après la Coupe du Monde, de l'ordre de 11%. Il y a encore une hausse aujourd'hui, et donc c'est assez positif, parce qu'on pouvait craindre un reflux post-Coupe du Monde. Mais nous, on veut structurellement augmenter le nombre de licenciés, parce que tout irait mieux s'il y avait plus de licenciés.
Mais c'est sûr que les traumas crâniens dont sont victimes les stars font peur aux mamans qui n'ont pas envie de mettre leur gamin dans les écoles de rugby.
La vérité, c'est qu'il n'y a pas de risque dans les écoles de rugby. C'est qu'on fait du toucher plus de secondes, un apprentissage très progressif du contact. Et en fait, dans les écoles de rugby, allez-y, mettez, je le dis à tous les auditeurs,
Moi, je les ai mis, sauf qu'à un moment, il n'a pas fait sa croissance, il s'est retrouvé face à des mastodontes, et ça l'a dégoûté, il a arrêté le rugby.
Et il peut faire du rugby à 5.
Voilà, du rugby, je sais pas ce qu'il va faire, mais.
Merci beaucoup, Florian.